France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron prend position sur la future réforme des retraites. Il dit préférer un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Le président s'exprimait hier soir sur le plateau de France 2. L'âge de départ à la retraite concentre une grande partie des débats autour du futur système universel prévu pour 2025. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye avait jusque-là préconisé un taux plein à l'âge pivot de 64 ans. Emmanuel Macron préfère donc se baser sur une durée de cotisation. Les partenaires sociaux seront reçus à ce propos à Matignon début septembre. Au lendemain du G7, premier bilan économique et diplomatique ce matin. Un accord d'abord serait possible sur une taxe internationale sur les GAFA, les géants du numérique. L'OCDE y travaillera d'ici l'année prochaine et la France renoncerait alors à sa propre taxe GAFA. Emmanuel Macron le concédait hier soir. Le président français qui par ailleurs dit croire en une rencontre entre l'Iran et les États-Unis, entre Hassan Rouhani et Donald Trump, pour relancer l'accord sur le nucléaire. Notons enfin dans ce bilan cette aide financière d'urgence pour l'Amazonie annoncée hier, 20 millions de dollars débloqués par les pays du G7. Ils veulent envoyer des bombardiers d'eau sur la forêt qui ne cesse de brûler depuis le début du mois. À l'instant, le Brésil refuse cette aide. Autre consensus sur la bonne voie, a priori, les représentants américains et les talibans afghans doivent finaliser un accord qui permettrait le retrait des soldats américains d'Afghanistan. Cela représente plus de 13 000 personnes. Les discussions doivent reprendre ce matin. Et ce matin, l'Italie se réveille au pied du mur. Après la démission du Premier ministre Giuseppe Conte, le président Sergio Mattarella a laissé 7 jours aux différents partis pour former une nouvelle coalition, jusqu'à aujourd'hui donc. Et cette coalition semble prendre forme, portée par le mouvement populiste 5 étoiles qui réclame le retour de Giuseppe Conte en tant que Premier ministre. Le mouvement populiste 5 étoiles ainsi que le Parti démocrate de centre-gauche. Dernière tractation avant ce soir minuit.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le nouveau rendez-vous quotidien d'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi, avec vendredi une balade radiophonique en direct de Berlin. Que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur ? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Elle nous émeuve, nous forme, nous interpelle. La compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les grands classiques ont leur place sur France Culture. C'est pourquoi en cette rentrée, la compagnie des auteurs devient la compagnie des œuvres. Nous y parlerons de tout, de littérature évidemment, mais également de cinéma, d'art plastique, de musique et pourquoi pas d'architecture. Tout cela avec le même principe, raconter un créateur en partant de la vie et en allant vers l'œuvre.
Cette semaine, Stanley Kubrick, la compagnie des œuvres, de lundi à vendredi à 15h. Et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, un réveil en douceur avec Toufik Hakem qui nous emmène ce matin à Marseille.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous. Tous les mardis, dans le Réveil culturel, on parle d'art, d'expo. Et aujourd'hui, on revient sur cette grande exposition qui a battu cet été des records de fréquentation au Mucem de Marseille. Exposition consacrée à Jean Dubuffet, peintre, écrivain, l'inventeur de l'art brut. Et cette expo rétrospective et ses 200 pièces rappellent que si Jean Dubuffet est effectivement l'acteur majeur de la scène artistique du XXe siècle, il n'a jamais cessé d'être un réfractaire au courant dominant. Pour nous en parler, Baptiste Brun, le commissaire de l'exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe, et spécialiste de l'œuvre de Jean Dubuffet. Ce sont les derniers jours, puisque l'exposition, c'est jusqu'au 2 septembre. Si vous êtes encore en vacances, si vous pouvez passer par Marseille, surtout, ne passez pas à côté de cette grande expo.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
J'éprouve une très grande inclination pour la sève, pour ce qu'on peut appeler la sève, la verdeur, voire même dans certains cas la brutalité, la sauvagerie. Et pour cette raison, c'est chez les gens du commun, les petites gens d'instruction très sommaire, que je me tourne pour trouver ces phénomènes de sève, beaucoup plus que chez les intellectuels où ces phénomènes-là me semblent absents. Et c'est précisément cette crainte de me confiner, comme le font les intellectuels, dans une espèce d'îlot stérilisé, qui a fait que j'ai abandonné à plusieurs reprises l'activité de production d'art.
Voilà, c'était Jean Dubuffet en novembre 1977, une archive INA. Alors, on va parler de cette exposition. Il vous reste encore quelques jours, c'est les derniers jours, puisque c'est jusqu'au 2 septembre au MUCEM à Marseille. Avec vous, Baptiste Brun, vous êtes le commissaire de l'exposition qui a pour titre donc Jean Dubuffet, un barbare en Europe. En fait, on aurait pu l'appeler Jean Dubuffet, l'artiste réfractaire.
Oui, réfractaire, c'est un petit peu, je dirais, l'un des mots d'ordre quand il s'agit de Dubuffet. On a voulu présenter, je dirais, une forme de portrait de Dubuffet dépeint en barbare en Europe, parce que Dubuffet a essayé, je dirais, de remettre en cause l'entendement que l'on avait jusqu'alors de l'art et des manières de fonctionner aussi autour de la question de l'art à la fin de la guerre, dans l'immédiate après-guerre.
On va questionner bien sûr le mot barbare, mais enfin le titre de l'exposition fait bien sûr référence au livre d'Henri Michaud, Un barbare en Asie, où ce dernier découvrait qu'en pays barbare, entre guillemets, dans une autre culture, c'était lui le barbare. Et ça a été aussi la réflexion de Jean Dubuffet.
Exactement. Dubuffet, c'est quelqu'un, on utilise le terme de barbare comme un élément pour le situer. Et Dubuffet se situe toujours à contre-courant en essayant de montrer que les hiérarchies instituées sont toujours culturellement construites. Et son idée, c'est d'aller un petit peu systématiquement contre. Donc le réfractaire et le barbare, il se joue là dans une contestation systématique des hiérarchies, d'une part, qui sont héritées du 19e siècle.
De l'art occidental, donc.
De l'art occidental en particulier. Et d'autre part aussi d'essayer de montrer le caractère qu'il jugeait factice de ces manières de se situer dans le monde de l'art et de penser la création artistique.
Et l'art est partout, disait-il en substance.
L'art est partout. Avec Dubuffet, il y a vraiment cette recherche aussi de l'art tous azimuts, et surtout pas dans les circuits qui étaient généralement dédiés à la découverte
de l'art. Et qu'il n'a pas emprunté, c'est peut-être ça. Cela peut expliquer ceci.
Oui, Dubuffet, ce qui est assez curieux, c'est sa position singulière. C'est quelqu'un qui est né en 1901 et qui bénéficie d'une première exposition personnelle en 1944. Il a 43 ans. C'est assez rare, en fait, cette forme de retard de l'entrée dans le monde de l'art. Avant ça, Dubuffet, c'est un commerçant. Un marchand de vin. Tout ouais. Simplement. Mais même si pendant l'entre-deux-guerres, il fait un petit peu ses classes, il va faire une école de beaux-arts au Havre, qui est sa ville natale, et puis ensuite il va fréquenter des gens de l'avant-garde dans les années 20, encore dans les années 30, mais il se lance pas. C'est comme s'il y avait une forme de complexe, d'ailleurs, c'est assez curieux. Mais il faudra attendre 1944-1945 pour voir un Jean Dubuffet qui, d'une part, trouve une manière en termes artistiques qu'il satisfait, ça c'est un point important, et puis d'autre part aussi une conception de l'art qui commence à s'affiner à cette époque avec l'invention d'une notion qui va faire florès, qui est la notion d'art brut.
Et c'est lui l'inventeur de cette formule, l'art brut.
Tout à fait. Petit poème, l'art est jamais brut. L'art brut, c'est un oxymore, mais là, il le fait travailler. C'est un terme qui fait vraiment problème. Et ça va le guider dans ce qu'il va appeler des prospections, qui vont l'amener à rencontrer des psychiatres, des ethnographes, des anthropologues et autres, et qui vont nourrir aussi cette conception singulière de l'art, nourrir sa propre pratique de peintre, nourrir aussi son travail d'écrivain, parce que c'est un écrivain prolifique.
Et toujours contre les courants dominants.
Toujours contre les courants dominants. On est à un moment particulier dans l'après-guerre. C'est le moment de l'institutionnalisation de l'avant-garde. Et il s'agirait de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça, Dubuffet, c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu dans cette activité un peu subversive. Et il va, au moment où le musée d'art moderne s'institutionnalise, au moment où la critique d'art glorifie tout le travail qui avait été produit dans les décennies précédentes, il va chercher à déranger un petit peu tout cela en affirmant sans cesse que la création doit aller contre.
Il avait de bonnes relations avec Henri Michaux, on en a parlé, avec Claude Lévi-Strauss, mais comment les peintres, les artistes de son époque le voyaient ?
Alors c'est délicat, il y a
des critiques d'art qui ont soutenu Jean Dubuffet depuis le début. Hein.
Tout à fait, Jean Paulhan notamment, Pierre Séguer, André Malraux, bon nombre de critiques d'art influents de ce moment-là. Mais il n'en reste pas moins que la majorité de la critique et la majorité des peintres aussi qui sont associés à cette critique sont plutôt hostiles à Dubuffet. D'ailleurs, pour en revenir à son passé de commerçant, on dit souvent c'est une mauvaise peinture, c'est une peinture de marchand de vin. Et puis en même temps, on a une part infime de la critique et quelques arts. Artistes comme Fautrier, par exemple, et puis les artistes de Cobra, comme Asger Jorn, qui vont s'intéresser très tôt à sa production. Et nombre d'entre eux, d'ailleurs, diront, dans un sens inverse, c'est une peinture formidable, c'est une peinture de marchand de vin. Mais voilà cette position singulière qui est la sienne dans ce champ artistique où, finalement, la professionnalisation de l'art, c'est un peu l'ennemi pour Dubuffet lorsqu'il arrive sur ce monde de l'art en 1944-1945.
Et dans cette exposition actuellement donc au Mucem jusqu'au 2 septembre, Baptiste Brun, on voit bien comment Dubuffet a aussi évolué. Hein. C'est-à-dire que avant de théoriser la notion de l'art brut, il y a quelques toiles qui peuvent le faire passer pour un peintre de son époque, remettant à peine en cause son époque. C'est après qu'il vient avec des expérimentations assez radicales.
L'entre-deux-guerres, lorsqu'il s'essaie à la peinture en 1922-23, puis ensuite il y revient dans les années 30, dans le courant des années 30, c'est un peintre qui connaît un petit peu l'étude référée de ce que sera le surréalisme. C'est un peintre qui va notamment imiter un petit peu la manière d'André Masson. Puis un peu plus tard, il fait une peinture qui relève du retour à l'ordre. C'est un beau métier, c'est une facture assez lisse, la peinture à l'huile, on ne peut plus classique à cette époque-là. Et effectivement, il dit qu'il cherche l'entrée. Et cette entrée, il finira par la trouver à l'hiver 42-43. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il trouve une manière extrêmement singulière, un chromatisme très fort. On montre une petite toile d'ailleurs au début de l'exposition qui s'appelle le petit sergent-major, qui représente un homme nu avec une moustache, un petit sergent-major sans uniforme. C'est l'idée ici de célébrer l'homme du commun, qui est un point essentiel chez lui, et de brancher l'art sur la vie courante. C'est ça son idée.
Alors comment brancher l'art sur la vie courante? En le sortant des cadres, parce qu'il est obsédé déjà par la 3D, avant l'heure, et puis aussi il se met à imaginer des personnages qui évolueraient en dehors du cadre, c'est-à-dire qu'il pourrait animer.
Tout à fait. Animer le tableau, ça va être un de ses grands soucis. D'ailleurs, il y arrivera. On montre ça aussi dans l'exposition avec ce moment important qu'est le spectacle Coucou Bazar, où il dit justement mettre en œuvre une peinture animée où l'on voit un grand champ ourloupéen. C'est son fameux cycle de l'ourloupe. Ces formes bleues et rouges et blanches cernées de noir qu'on connaît bien. Et ce sont des panneaux qui s'entremêlent les uns aux autres. Et devant ces panneaux, vous avez des praticables qui bougent, qu'il a montés sur des petites roulettes, d'ailleurs, parfois aidés de petits moteurs électriques, et aussi des mannequins des costumes qui peuvent être habités, très clairement. On montre d'ailleurs le triomphateur, qui est un grand costume, qui rappelle l'art du carnaval aussi, qui se branche un petit peu sur une tradition de l'art populaire. Ce n'est pas sans rappeler les grandes figures du carnaval de Binche en Belgique.
Dubuffet qui a fait des masques d'ailleurs.
Et qui a fait des masques dès les années 30. Donc il est toujours en prise ici avec cette idée que l'art agit dans le présent. Ça c'est un point essentiel pour lui, que cette activité au cœur même de l'espace d'exposition.
C'est un Est-ce point que ces influences viennent d'ailleurs? Cet ailleurs qui est hors champ, c'est-à-dire on va commencer à parler de la culture qui est loin des grandes institutions avant d'arriver à la notion d'art brut. Est-ce qu'il est influencé par tout ce qu'il voit à l'extérieur, puisqu'il va être un des premiers à considérer le graffiti comme une forme d'art populaire?
C'est une tête chercheuse. Le graffiti, c'est un élément central de ses expérimentations autour de 1944. Il est en relation avec Brassailles, qui photographie depuis une dizaine d'années les graffitis à cette époque. Il connaît aussi Henri Calais, qui est un écrivain majeur et qui s'est penché sur la question du graffiti, notamment en se rendant à la prison de Fresnes au moment de la libération pour relever les graffitis des prisonniers sur les murs. Ce graffiti, c'est l'idée d'un art sans exercice que l'on retrouve depuis l'homme des cavernes jusqu'au pur présent. Comme le disait Brassailles, ça va du mur des cavernes au mur d'usine, cet art du graffiti. Donc c'est un art qui procède du banal finalement et justement qui résiste mal au radar qui est celui de l'art institutionnel, en tout cas de l'entre-deux-guerres. Et puis plus avant, Dubuffet c'est une tête chercheuse. Il va phagocyter différentes expressions artistiques qui n'étaient pas forcément considérées comme de l'art. Et donc sa focale va largement s'ouvrir et il va s'intéresser à cette super catégorie que l'entre-deux-guerres qualifiait d'art primitif. Alors c'était pêle-mêle, les arts qui étaient...
Terme qui va récuser d'ailleurs.
Un terme qui va récuser complètement, justement, ouais. En montrant que finalement cette hiérarchie verticale, où l'art primitif serait tout en bas de l'échelle évolutionniste et l'art civilisé inspiré de la Renaissance tout en haut, c'est une relation construite ici, et c'est complètement caduque. Donc il récuse cela, et donc il va s'intéresser pêle-mêle à l'art des enfants, à l'art populaire, au folklore, à des formes d'art africain, d'art océanien. Il regarde vraiment dans tous les sens. Et les asiles, à l'évidence.
L'art fou.
L'hôpital psychiatrique. Alors l'art fou, d'ailleurs, il dira, il n'y a pas d'art des fous. L'art des fous, c'est une notion qui le dérange un petit peu, parce que c'est comme dire qu'il y aura un art qui serait spécifique aux plombiers ou un art qui serait spécifique aux maçons. Il dit, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des dyspeptiques ou des malades du genou. Mais derrière cette idée, c'est juste de dire... Dans les hôpitaux psychiatriques, le délire amène à des formes artistiques qui sont extrêmement singulières. Mais en même temps, au travers de ses recherches, c'était assez rare de trouver la pépite dans un matériau assez incroyable qu'on pouvait découvrir dans les hôpitaux psychiatriques.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Time after time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time, you'll hear me say that I'm so lucky to be loving.
tu récuseras ce que tu avais pris pour la réalité. Ton regard, tu le déshumaniseras, tu le nettoieras de tout ce qu'on avait voulu t'apprendre, tu le libéreras, etc., etc., etc. C'est Jean Dubuffet à la fin de sa vie. Jean Dubuffet, un barbare en Europe, c'est l'exposition, la grande exposition du MUCEM à Marseille. Si vous habitez la cité phocéenne, vous avez bien de la chance parce que vous pourrez la visiter. Cette grande expo, c'est jusqu'au 2 septembre. Mais si vous êtes pas du tout marseillais et si vos chemins de vacances d'été vous mènent pas loin de Marseille, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir cette exposition. Et nous sommes ce matin avec le commissaire Baptiste Brun. Il y a dans cette exposition deux focus, c'est-à-dire à un certain moment, on va voir un peu les voyages de Jean Dubuffet. Il a été voyageur, Jean Dubuffet, notamment au Sahara. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est vraiment le contrepoint de la peinture dite orientaliste. Il fait exactement ce que les orientalistes ne font pas et vice-versa. C'est-à-dire tout ce qu'ils ne font pas les orientalistes, lui, il le fait. C'est-à-dire se mettre en scène avec les indigènes, utiliser la matière des territoires. Et ça donne donc, dans cette exposition, un drôle de dialogue avec toutes les expositions célébrant les orientalistes aujourd'hui à Paris ou à Roubaix.
Oui, le fait est que Dubuffet est amené à partir au Sahara à trois reprises, en 47, 48, puis 49. Et ces trois voyages vont avoir une incidence majeure sur sa conception des choses. Parce qu'il part là-bas dans une idée un petit peu de découvrir, je dirais, le désert de la culture. Et puis au final, il se rend compte qu'il y a une culture du désert. Et ça, c'est un vrai électrochoc pour lui. Alors ce qui nous intéressait dans l'exposition, c'était de montrer tout ce travail qu'il a produit sur place. Il a beaucoup peint sur place.
Et
il a
contre les orientalistes. Là.
Et contre les orientalistes, parce que l'idée, justement, c'était de prendre en charge ce legs orientaliste et, comme à l'habitude, de le subvertir. Donc, en essayant d'être au cœur d'une matière ici qui ne soit pas illusionniste, finalement, et de donner à voir cette réalité presque physique du désert qu'il rencontre autour d'El Goléa ou de Timimoun dans le centre de l'Algérie.
Jusqu'à Taman Rasset, d'ailleurs.
Jusqu'à Taman Rasset.
Aller là où les orientalistes ne vont pas. Apprendre les langues berbères, tamashek, des Touaregs et la langue arabe, s'intéresser aux musiques du Sahara, lui qui a fait des expérimentations aussi musicales, Jean Dubuffet.
On le voit jouer de la flûte dans une image avec des habitants de l'oasis d'El Goléa. Et ça va avoir une importance déterminante là aussi, effectivement, dans la musique qu'il produira un petit peu plus tard, en 1960-61, en compagnie d'Asger Yorn et d'Henri Michaud, ce qu'il appelait ses expériences musicales, ou la musique phénoménologique, musique bruitiste comme ça, très, très impressionnante. Ben, finalement, l'idée, c'est que Dubuffet, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-guerres, ensuite des orientalistes, c'est qu'il y a l'avènement d'une forme d'anthropologie qui prône une forme d'observation participante. Et Dubuffet, en partant là-bas, il dit adopter le genre arabisant à outrance. Derrière, l'idée, finalement, c'est d'apprendre la langue, de revêtir le burnou et de vivre sur place avec les habitants.
Mais donc, pas à la manière d'Isabelle Hébérard, hein, parce qu'il se moque aussi de lui-même, hein. C'est-à-dire il se représente lui-même avec des bédouins.
Avec des bédouins, il y a cette idée toujours de se situer. Hein, c'est toujours cette affaire de décaler un petit peu le regard, de repenser la question de l'altérité. Et donc,
et ça en incitant les gens à dessiner avec lui. Hein. Il n'y a pas que un dessinateur et des modèles. Les deux fonctions vont ensemble avec Dubuffet.
On est très heureux dans l'exposition de montrer notamment un portrait qu'a fait Dubuffet qui s'appelle l'Arabe à l'œillet, dont on sait que c'est un portrait de quelqu'un qui était son logeur à El Goléa, qui s'appelle Kadour Douida. Et on a retrouvé aussi à la collection de l'Art Brut à Lausanne un ensemble de peintures de Kadour Douida. Donc c'est dire qu'il peignait sur place avec des gens. Hein. Dans ses carnets aussi, on retrouve des dessins d'un chamelier qui s'appelle Ben Yahia. Donc là, c'est amusant parce qu'on le voit, je dirais, dans un principe de vase communicant, à regarder ce que font les autres.
Et cette liberté qu'il a, Dubuffet, c'est parce qu'il se considère comme ethnographe et plus qu'en peintre à cette période-là?
Alors ça, je ne crois pas, finalement. Peut-être que l'ethnographie représente une forme d'horizon de pratique, mais il détourne ses pratiques au profit de son projet artistique.
Parce qu'on l'avait entendu là au début quand il dit j'ai cessé de peindre pour m'intéresser aux autres, pour aller très vite, quoi.
Ouais, il y a chez lui cette espèce de, je parlais tout à l'heure de la tête chercheuse, hein, cet esprit de curiosité extrêmement ouvert, qui n'est pas non plus, je dirais, dépouillé totalement des scories de racisme et autres qui venaient de son éducation bourgeoise, hein, mais il se bat contre ça. Il y a vraiment cette volonté de s'affranchir de cela. Et donc, il y a cette peinture très étonnante, mais qui d'un coup replace les choses sur une espèce d'horizon commun, parce qu'il n'y a pas grande différence entre les peintures qu'il va réaliser à partir d'un motif comme le métro parisien et ses voyages au Sahara algérien. Ce qu'on retrouve finalement au cœur de son œuvre, c'est l'homme qui est dépeint sous toutes ses coutures.
Bon, ceci dit, pour le carnet de gouache, c'était en 1943, ces voyages en métro, c'était une manière, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, d'être underground, d'échapper justement à ce qui se faisait à l'époque dans les grandes galeries.
Dubuffet, en cherchant ce qu'il appelle l'horizon de l'homme du commun, il se détourne des sujets d'exception. C'est le banal qu'il recherche, et quoi de plus banal que le métro? Ça, c'est un point pour lui intéressant. Donc, underground, je dirais, pourquoi pas, mais c'est surtout vraiment cette affaire de se brancher sur la vie courante, ça se situe.
C'est son idée, c'est l'idée de Jean Paulhan.
Il le partage vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que Paulhan passe dans l'atelier de Dubuffet pour voir ce carnet de gouache qu'il conservait au Centre Pompidou en 1943. Il est complètement fasciné. Il va écrire un texte qui rend hommage à cet ensemble de gouache qui s'appelle La Métromanie ou Les Dessous de la Capitale. Et en échange, Dubuffet va entièrement calligraphier ce texte dans un petit bouquin qui est absolument formidable, qui date de 1949. Plus de 130 pages comme ça, qui sont écrites au calame.
Et qui sont exposées
au Mucem. Et qui sont exposées au Mucem.
Parce qu'il y a aussi sa correspondance, il y a beaucoup de documents.
Oui, alors on a voulu bien évidemment aussi donner à voir le travail de Dubuffet. Parce que Dubuffet, bon, c'est un peintre extrêmement prolifique, on sait cela. On sait un petit peu moins, mais on sait qu'il écrit beaucoup. Mais il y a aussi toutes ces correspondances incroyables.
Et c'est ça qui met en relief son côté réfractaire du début jusqu'à la fin de sa carrière.
Ah ben, il polémique, ouais. Hein, constamment dans ses correspondances. On le voit, c'est vraiment tailler le bout de gras jusqu'au conflit parfois acerbe. Hein, il a polémiqué avec des gens comme Combrowitz, il a polémiqué avec des anthropologues, il s'est mis parfois à dos des psychiatres importants comme Gaston Ferdière. Donc il a toujours voulu, et on rend hommage un petit peu à cet esprit-là en montrant un tableau qui s'appelle Colloque sous les arbres, où on voit deux personnages qui sont affrontés. Et c'est très souvent dans la peinture de Dubuffet, on voit deux personnages qui sont en train de discuter. La discute chez Dubuffet, c'est aussi l'art de la dispute. Et ça, c'est sa dimension philosophique finalement. Tout doit procéder par la contradiction.
Et vous, Baptiste Brun, comment êtes-vous arrivé au monde de Jean Dubuffet? Par quelle porte? Est-ce que c'est par l'art brut ou par une...
C'est plutôt l'art brut, ouais. Effectivement. Et j'ai connu des artistes qui organisent une biennale à Lyon qui s'appelle la Biennale hors normes et qui m'ont familiarisé un petit peu avec, je dirais, ces interstices de la création de l'art brut dans les années 1990-2000. Il y avait comme ça ce moment où ça émergeait un petit peu. J'étais jeune étudiant à l'école du Louvre et c'était une grosse bouffée d'air que d'entendre parler de cet art brut et de le voir aussi. Et puis finalement, quand on se penche un peu sur la question de l'art brut, on tombe inévitablement sur Dubuffet.
Et aujourd'hui, l'art brut, selon Dubuffet, c'est toujours la même définition?
Il y a vraiment une évolution. Alors, bonne ou mauvaise, je ne trancherai pas forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on réduit un petit peu l'art brut à la question de la pathologie, de la déficience mentale et autres. Et je crois que c'est une espèce de renfermement un petit peu.
Alors que lui, il l'ouvrait, y compris au dessin d'enfants.
Ouais. C'est le décloisonnement par excellence, Dubuffet. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas tant la question de du producteur chez Dubuffet qui va compter, mais c'est pas tant le fait que le producteur soit fou, comme on pourrait le dire, mais c'est que l'œuvre nous affole. Il faut que l'œuvre soit folle. C'est ça qu'intéresse Dubuffet. Et son critère absolu, finalement, c'est l'invention plastique. C'est ça qui retient son attention. C'est cela qui guide son regard et qui l'arrête.
Et on quitte cette exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe au Mucem par un texte qui est vraiment un manifeste, un de ses derniers textes, hein, Baptiste Brun.
C'est un texte qui s'intitule Oriflamme. On a su très tôt qu'on voulait terminer sur ce dernier livre que publie Dubuffet en 1984. Et c'est un texte donc qui est accompagné de 16 sérigraphies qui sont ses œuvres dans lesquelles Dubuffet, hein, qu'il appelle les mires, dans lesquels il n'y a plus de figure humaine, il n'y a plus de site, il y a juste des énergies graphiques comme ça qui traversent les pages. Et puis le texte, c'est un court texte, hein, de 4 pages, mais qui...
Sans ponctuation, à lire comme ça.
Toujours la prise de difficulté, hein, il nous met en danger un petit peu.
Et quand on sort de cette exposition, on se dit qu'il nous manque un barbare aujourd'hui, un peu comme Dubuffet, qui viendrait remettre en cause, en question du moins, tout ce qui se fait en art contemporain.
Je ne sais pas si je suis sûr qu'il y a des artistes contemporains aujourd'hui qui nous donnent aussi à réfléchir un petit peu à tout cela, mais c'est vrai que, je dirais, il y a une question d'historicité qui se pose, quoi. Dubuffet, c'est les années 40, 50 et au-delà. Et dans ce moment-là, le vernis culturel craque dans tous les sens. Alors, il est probable qu'aujourd'hui, peut-être, on va avoir des figures de grands contestataires qui vont se présenter, qui feront peut-être écho aussi à cet héritage de Dubuffet.
Bon, alors, vive les barbares!
Vive les barbares!
Jean Dubuffet, un barbare en Europe, c'est l'exposition au Mucem à Marseille jusqu'au 2 septembre. Merci, Baptiste Brun. Je rappelle que vous étiez le commissaire de cette exposition. Merci d'être venu nous en parler ce matin dans le Réveil culturel.
Merci à vous, au revoir.
Réveil culturel préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Benjamin Vignal. On se retrouve demain, et demain, comme tous les mercredis, on parlera cinéma.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon.
Informer, comprendre, chaque jour, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Je vous attends chaque jour de la semaine dès 7h pour 2h d'actualité, d'analyse et de commentaires en compagnie d'artistes, d'intellectuels et de journalistes de la rédaction de France Culture.
Les matins de France Culture, de lundi à vendredi à 7h et sur franceculture.fr. 1989.
C'est la naissance des temps modernes.
L'armée populaire.
Chute du mur de Berlin, bicentenaire de la Révolution française, répression meurtrière en Chine place Tiananmen. Une nouvelle carte du monde, de la politique et des idées se dessine. 30 ans après, les répercussions de cette année charnière sont toujours à l'œuvre. Pour mieux comprendre les temps que nous vivons, 1989-2019, 30 ans après la chute du mur, comment l'histoire continue? Documentaire, analyse, décryptage, grands invités. Semaine spéciale sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quel bilan tiré du sommet du G7 organisé ces trois derniers jours à Biarritz? Chacun est reparti chez soi. Le président français a fait le service après-vente à la télévision hier soir encore. Mais pour quel résultat? Pas ou peu de brouille diplomatique. Un pré-accord sur la taxe GAFA. Échec ou succès et pourquoi? Nous balayerons l'ensemble de ces questions dans ce journal. Dans un instant également, nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron hier soir. Il dit sa préférence pour un calcul des droits à la retraite lié à la durée de cotisation plutôt qu'à l'âge de départ. Explications et réactions à suivre. Le chef de cabinet du président brésilien s'exprimait il y a quelques heures à peine. Le Brésil, dit-il, rejette l'aide proposée par les pays du G7 pour combattre les incendies en Amazonie. Le chef de cabinet de Jair Bolsonaro conseille dans le même temps à Emmanuel Macron de s'occuper, je le cite, de sa maison et de ses colonies. Nouvelle attaque verbale, alors que le président français, après le sommet du G7 à Biarritz, avait annoncé une aide financière de 20 millions de dollars pour les pays de l'Amazonie. La forêt, je le rappelle, brûle depuis le début du mois. Des milliers de feux s'y sont déclarés. Le G7 est donc terminé à Biarritz. Les dirigeants sont repartis, notamment Donald Trump. Il aura passé 2 jours et demi en étant finalement plutôt conciliant. On le souligne outre-Atlantique, Grégory Phillips.
C'est peu dire que le premier tweet post-G7 de Donald Trump était redouté. L'an dernier, au départ du Canada, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le président américain avait laissé éclater sa colère et refusé d'apposer sa signature sur le communiqué final. Là, son premier message sur Twitter est beaucoup plus conciliant. Une vidéo d'une minute intitulée « Merci la France ». Musique grandiloquente, montage hollywoodien, mêlant images de Biarritz et séquences où l'on voit Trump entouré de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement. Le Wall Street Journal utilise d'ailleurs ce terme conciliant, notant que sur l'Iran, sur la Chine, sur les GAFA, Donald Trump avait largement baissé d'un ton entre le premier jour du sommet et le dernier, et le site internet Politico note qu'il y aura bien un G7 l'an prochain aux États-Unis, à Miami, certes dans l'un des golfs appartenant au président, mais on aurait pu craindre que l'échec de 2018 sonne la fin de ce genre de réunion. Sans surprise enfin, sur Fox News, l'éditorialiste Stuart Varney est enthousiaste. Notre président a dominé cette rencontre comme aucun dirigeant ne l'avait fait auparavant.
Alors est-ce Donald Trump ou Emmanuel Macron, le président français, qui tire vraiment son épingle du jeu après ce sommet? Voici le bilan cette fois vu de France. Là aussi, on souligne qu'il n'y a pas eu de coup d'éclat ni de brouille diplomatique. Et c'est peut-être ça la vraie victoire française, Bertrand Galichet.
Comme s'il naviguait entre les rochers de Biarritz, Emmanuel Macron a pour l'essentiel évité les écueils diplomatiques du week-end. Annoncé comme le G7 de la discorde, le sommet s'est terminé sur un constat d'unité. Même Donald Trump, partenaire redouté, n'a rien trouvé à redire à la venue spectaculaire en marge du G7 et à l'invitation de la France du ministre iranien des Affaires étrangères. Mieux, le président américain laisse entrevoir la possibilité d'une rencontre avec son homologue iranien Rohani. Le G7 de la Côte Basque a aussi confirmé la promesse d'un accord sur la taxation des GAFA dès l'an prochain via une refonte de la fiscalité dans l'OCDE. La méthode Macron, multilatéralisme et divergence assumée, pourra être évaluée à l'aune des résultats obtenus au prochain sommet en 2020 aux États-Unis. Le président français peut cependant avoir deux regrets. Boris Johnson n'a rien lâché sur le Brexit et les pays hors G7, africains, asiatiques ou sud-américains, invités pour élargir le débat, n'ont guère été entendus.
Voilà pour le bilan. Bertrand Galichet évoquait à l'instant la taxe GAFA, sûrement supprimée en France si l'OCDE se met d'accord pour taxer les grosses entreprises du numérique. Emmanuel Macron évoque un très bon accord avec les États-Unis, mais aurait-il en réalité cédé face aux menaces américaines, Isabelle Chaillot ?
Avec cet accord, la France compte en tout cas éviter les sanctions brandies par Donald Trump, à savoir des droits de douane à 100% sur le vin français. Le prix à payer est donc la disparition annoncée de la taxe GAFA, pourtant adoptée en juillet dernier. La France la retirera, mais seulement lorsque les discussions internationales en cours à l'OCDE sur la taxation du numérique auront débouché sur un accord. Conséquence, si cette taxe GAFA version OCDE est moins élevée que la taxe française, alors le fisc remboursera la différence aux multinationales concernées. La taxe GAFA mort-née, mais en attendant cet accord à l'OCDE, elle va bien s'appliquer en France et l'État espère toujours récupérer 500 millions dès cette année. Quant aux États-Unis, ils ont dû eux aussi faire évoluer leur position en acceptant le principe d'une taxation des géants du numérique qu'ils refusaient depuis des années. Recul français ou non, l'épisode met surtout en lumière les divisions des pays européens incapables de s'accorder sur une imposition commune des GAFA.
Merci Isabelle Chaillot. Comme un air de déjà-vu, un universitaire australien est soupçonné d'espionnage en Chine. Il a été arrêté selon Canberra il y a plusieurs mois maintenant, sans chef d'inculpation. Son état de santé aujourd'hui est jugé inquiétant. En bref, encore la mort de l'ancien patron et figure historique du constructeur automobile Volkswagen. Ferdinand Piëch est mort à l'âge de 82 ans. L'ingénieur allemand, resté plus de 20 ans à la tête du groupe, avait hissé Volkswagen parmi les premiers mondiaux de l'automobile. Nous faisions en début de journal le bilan du G7 organisé ces trois derniers jours en France à Biarritz. C'est à l'occasion de ce bilan sur le plateau de France 2 hier soir qu'Emmanuel Macron s'est exprimé sur des questions de politique intérieure. Il dit ainsi vouloir éradiquer progressivement la grande violence en France, tout en souhaitant changer la manière d'assurer la sécurité pour, dit-il, réduire le nombre de blessés. Une réaction aux gilets jaunes mobilisés jusqu'au printemps dernier. Le chef de l'État s'est également exprimé hier soir sur la réforme à venir des retraites et il a pris position.
Ce que je veux, pour le dire en des termes très simples, c'est qu'on fasse deux choses. Un, que notre régime, quand il rentre en vigueur en 2025, il soit équilibré financièrement. Et deux, que ce soit juste en termes de cotisation. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste.
Voilà, plus juste pour le chef de l'État et à l'encontre tout de même de ce qu'avait officiellement préconisé le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, c'était à la mi-juillet. Que vont en penser les syndicats ? Certains avaient déjà annoncé une mobilisation pour le mois de septembre. Philippe Crevel est économiste, il dirige le Cercle de l'épargne et il analyse pour nous ce matin les possibles réactions des partenaires sociaux.
C'est sans nul doute une ouverture assez forte vis-à-vis des partenaires sociaux. En règle générale, les syndicats sont plutôt favorables donc à la notion de durée de cotisation, car comme l'a dit le président de la République, ça permet à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt à leur retraite. Et donc ça, évidemment, ça fait sens pour les syndicats à dominante donc ouvrière. En revanche, c'est vrai que le syndicat des cadres, à mon avis, sera opposé. La CFDT pourra y voir, on va dire, un signal comme quoi elle aurait été entendue. Et vis-à-vis de ses troupes, c'est évidemment important qu'elle puisse donc se prévaloir d'une concession de la part du chef de l'État et du gouvernement. Donc c'est évidemment une ouverture que fait l'exécutif vis-à-vis des partenaires sociaux.
L'économiste Philippe Crevel, il répondait à Julien Langlais. Il tend la main à l'adversaire potentiel. À 7 mois des élections municipales, le candidat désigné de la majorité pour la mairie de Paris propose à Cédric Villani de copiloter la campagne de La République En Marche. Benjamin Griveaux lui tend la main, à la fois, dit-il, sur le fond et sur l'incarnation. Cédric Villani, député de l'Essonne sous l'étiquette LREM, pourrait être tenté de lancer une candidature dissidente à la mairie de Paris. Nous venons de l'apprendre à l'instant, un vaisseau spatial Soyouz non habité transportant le robot humanoïde russe Fedor s'est arrimé à la Station Spatiale Internationale. C'est ce qu'annonce un commentateur de la NASA TV, la télévision de la NASA. Contact confirmé, arrimage confirmé, a-t-il dit il y a quelques minutes. Nous revenons en France, sur la Terre, avec la météo du jour et le temps va se dégrader ce mardi par le sud-ouest avec l'arrivée de pluie, d'orage dans l'après-midi. Du sud-ouest à la région parisienne, le ciel sera bien encombré en début de journée. Partout ailleurs, le soleil va dominer sous des températures qui sont toujours chaudes. Comptez ce matin 18 degrés à Lorient, 23 à Bordeaux, 27 degrés à Dunkerque, à Paris, Strasbourg, 28 à Lyon et à Nice. Ce matin, il fera entre 23 et 34 cet après-midi. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Alors Jacques, nous l'évoquions dans le journal de l'information, vous y revenez dans votre journal oui. Des idées. Le G7 veut débloquer une aide d'urgence pour envoyer des Canadairs en Amazonie.
Oui, et outre cette flotte aérienne, le G7 s'est accordé sur un volet d'aide à moyen terme destiné à la reforestation, précise le site de l'hebdomadaire Le Point. Amélie Perrault-Boulard, envoyée spéciale à São Paulo, rappelle que cette année, ce sont 76 720 feux qui ont été enregistrés sur le territoire brésilien, soit 85% de plus que l'an passé. En cause notamment la politique prédatrice pour l'environnement du président Bolsonaro et en particulier la déforestation accélérée depuis son arrivée au pouvoir. Dans Courrier International, Sabine Grandadam explique pourquoi la forêt la plus humide du monde brûle depuis des semaines. L'humidité captée par la canopée se propage intensément et imprègne le sol, permettant même à certaines régions de forêt dense de générer leur propre régime de pluie sans aucune influence météorologique, rappellent des experts sur le site BBC Mundo, lesquels relèvent pourtant que la forêt amazonienne est devenue plus inflammable depuis quelques décennies en raison des incendies précédents qui assèchent les sols. Tous les scientifiques s'accordent pour incriminer la déforestation et la politique actuelle du gouvernement brésilien qui promeut des modèles de développement agricole basés sur le brûlage dans le but d'étendre les cultures intensives de soja et l'élevage de bétail. Jusque-là, cette politique était contenue par une réglementation appuyée sur des techniques de monitoring par satellite et par le cadastrage des terres indigènes. Aujourd'hui, la délimitation des terres appartenant aux communautés amérindiennes et garantissant leurs droits, est ajournée par le gouvernement et confiée au ministère de l'Agriculture. Libération consacre aujourd'hui une édition complète au poumon vert de notre terre, comme l'annonce Mathieu Écoiffier après le Libé des océans, consacré à l'actualité du poumon bleu de la planète. Ce Libé des forêts et ses 28 pages de balade dans les arbres, imprimées sur 5 tonnes de papier recyclé ou durable, était une nouvelle aventure journalistique à défricher. Amazonie, concours de bûcheronnage, sapins comestibles, exposition d'art, sylvothérapie. Alors que l'être urbain a la tête en permanence connectée à la web canopée mondiale, l'arbre représente aussi un besoin de s'enraciner. Mais le projet s'est vu rattrapé par une actualité brûlante. Christian Poirier, directeur des programmes d'Amazon Watch, met en accusation le gouvernement brésilien dans les incendies en Amazonie. L'ONG basée en Californie se consacre à la protection de la forêt tropicale et de l'écosystème et à la défense des populations autochtones dans les principaux pays du bassin de l'Amazone, Pérou, Équateur, Colombie et Brésil. Là, dénonce Christian Poirier, les déboisements illégaux ont augmenté de 67%. C'est la conséquence directe des déclarations du nouveau président qui permettent à ses acteurs d'agir avec un sentiment total d'impunité. Ils se sentent légitimés à envahir des terres appartenant à des communautés autochtones. Ces terres volées, une fois déboisées, ont une valeur marchande bien supérieure. Nettoyées par le feu, elles peuvent être vendues à des agriculteurs ou à des éleveurs. Il évoque des mafias liées à l'agrobusiness qui, pour allumer ses feux, recrutent des chômeurs et les exploitent dans des conditions proches de l'esclavage. Et il estime que la volonté de la France et de l'Irlande de subordonner la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur à un engagement réel de défense de l'environnement est un pas très important. La maison brûle chez Bolsonaro. Selon un sondage récent, 86% des Brésiliens veulent préserver l'Amazonie. Les mobilisations sont nombreuses, femmes, communautés indigènes, paysans sans terre. Amazonie, Sibérie ou Canaries cet été encore, les feux de forêt prennent une ampleur si gigantesque qu'on les appelle les méga-feux. La philosophe Joëlle Zask s'est intéressée à ces phénomènes extrêmes dans un livre qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle sous le titre « Quand la forêt brûle, pensez la nouvelle catastrophe écologique ». Campfire, qui en novembre 2018 a détruit entre autres la ville de Paradise en Californie, a été sans précédent, irrésistible. Selon les pompiers, il s'est propagé à une allure phénoménale jusqu'à conquérir l'étendue d'un terrain de football par seconde. La philosophe s'emploie à requalifier le phénomène de méga-feu comme un accélérateur d'opinion en faveur d'une action collective pour la sauvegarde, non de la terre qui nous survivra, mais des conditions d'existence humaine. Elle insiste notamment sur le choc émotionnel et la sidération provoquée par l'événement chez tous les êtres vivants. L'hébétude est telle que la capacité de réagir s'évanouit, même chez les animaux. Les cochons, les chevaux, réputés intelligents, se précipitent vers leur gîte en flammes et même les oiseaux tombent en pluie. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent, affirmait déjà Chateaubriand. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier. Bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, la reprise en main du Cachemire, l'Inde laïque est-elle morte?
Oui, la situation de cet immense territoire au cœur de l'Himalaya a été trop brièvement évoquée ce week-end par les dirigeants du G7 qui recevaient le Premier ministre indien nationaliste. C'est lui, Narendra Modi, qui le 5 août dernier, après avoir, d'après les témoignages, fait évacuer tous les hôtels du Cachemire de leurs touristes étrangers, a fait savoir qu'il retirait à ce qui était jusqu'à présent un État indien son autonomie relative. Je rappelle que le Cachemire est divisé en deux depuis 1947, un Cachemire indien et un Cachemire pakistanais. C'est du Cachemire indien qu'il est question ce matin. Il compte 12 millions de personnes. Bonjour Charlotte Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre d'un collectif de chercheuses et de chercheurs en sciences politiques qui s'appelle le collectif Noria et qui a la particularité de privilégier l'approche de terrain. Vous êtes coordinatrice du programme Asie du Sud pour ce collectif Noria. Avez-vous des nouvelles des Cachemiris que vous avez rencontrés pendant vos années de recherche? Ça fait un certain temps que vous parcourez cette région. Est-ce que vous avez pu les joindre depuis le 5 août dernier?
Non, alors en fait, les nouvelles que j'ai sont plutôt des non-nouvelles, puisque les seules nouvelles qu'on a aujourd'hui d'une population cachemirie sont les cachemiris qui vivent en dehors de l'état du Jammu et Cachemire, donc du Cachemire indien, puisque comme vous disiez, en fait, tout le Cachemire indien est fermé aux communications depuis le 5 août, donc internet, téléphone portable, mais également les voies de communication. Ça, c'est ce qu'on a su par justement déjà le gouvernement et également les quelques journalistes qui ont réussi à y aller il y a à peu près 10 jours. Mais sinon, non, les Cachemiris indiens que je connais, en fait, sont ceux de New Delhi et qui, eux, mettent beaucoup de statuts Facebook ou de messages sur WhatsApp pour dire leur peine et leur inquiétude de n'avoir aucune nouvelle de leurs proches. Et je pense notamment à une personne qui a des parents assez âgés et malades et à qui elle n'a pas parlé depuis 21 jours.
Les journalistes dont vous parlez, ce sont ceux par exemple du Figaro ou de La Croix qui, pour certains, sont allés dans la vallée du Cachemire, dont certains villages, écrivent-ils, dégagent des émanations de gaz au poivre. Il faut dire que des renforts militaires ont été envoyés dans un pays qui compte déjà 600 000 soldats pour 12 millions d'habitants. Un autre journaliste décrit la plus grande ville, Srinagar, comme étant quasiment vide, avec des habitants enfermés chez eux par peur des soldats qui procèdent à des interpellations de jour comme de nuit. Que cherchent-ils au juste ces soldats?
Mais il s'agit de boucler. Déjà, il faut rappeler quand même que depuis 1990 et la mise en œuvre de pouvoirs spéciaux pour l'armée, le Cachemire est quand même fréquemment en proie à des actions armées assez conséquentes, avec des arrestations de population et des exactions faites sur la population civile, au-delà des militants armés. Mais là, je parle vraiment de la population civile. Donc là, on est sur une échelle encore supérieure, puisque effectivement il s'agit en fait de boucler complètement la région. Et le discours du gouvernement est de dire que la situation au Cachemire est normale. Et il y a un papier, enfin un article assez cynique d'un journal indien qui s'appelle The Scroll, qui montre en fait 21 points mettant en exergue la nouvelle forme de normalité du gouvernement au Cachemire, qui va avec justement une absence totale de communication, la possibilité pour la population de se rendre même dans les hôpitaux, les écoles, etc. Donc c'est ça, il s'agit de bloquer en fait toute communication vers l'extérieur pour donner cette impression de normalité.
Officiellement, donc l'Inde dit que tout est calme au Cachemire et que si elle a fait couper les communications, c'est pour éviter les émeutes après l'annonce de la fin de l'autonomie. Annonce faite et décision prise par le Premier ministre indien Narendra Modi, dont il faut dire quelques mots, Charlotte Thomas, pour comprendre ce qui a motivé sa décision. Narendra Modi est présenté comme un ultra-nationaliste hindou. Le Cachemire indien est une région autonome à majorité musulmane, dans un pays donc largement hindou, majorité musulmane à 80%, et cette situation lui est insupportable.
Oui, alors déjà, juste une petite chose, mais il y a des échauffourées parce qu'on sait, alors moi j'avais notamment en tête un papier du New York Times, on sait qu'en fait il y a des manifestations qui sont réprimées extrêmement fort, mais il y a des manifestations qui essayent quand même, des gens qui essayent quand même de manifester, et au Cachemire, et également au Jammu, ce qui est une autre partie de l'état du Cachemire indien, et ce qui est relativement... moins fréquent quand même dans le cas du Cachemire indien. Mais alors moi je préfère personnellement parler de nationaliste hindou.
Et pas ultra nationaliste.
Voilà, oui, parce que le terme d'ultra permet de mettre les choses un petit peu de façon orientaliste, un petit peu loin, etc. Alors que non, les dérives autour de la revendication d'une citoyenneté, autour d'une identité ethnique définie, c'est quelque chose qu'on voit aussi chez nous et aussi en Europe. Je pense notamment à la Pologne, par exemple, mais pas que. Donc oui, pour le nationalisme hindou, le statut spécial du Cachemire est une aberration depuis 1947, étant donné aussi que le fédéralisme indien est quelque chose qui n'est pas du goût tout à fait des nationalistes hindous, qui considèrent que ça peut en fait un peu faire des forces centripètes en fait, qui peuvent un peu nier l'unité de la nation indienne, qui est vécue comme quelque chose d'organique, d'hindou, etc. Donc effectivement, après, la manière est très brutale, ça il n'y a pas de doute, mais il y a très peu de surprises sur cette mesure, puisqu'elle était annoncée dans le programme électoral du BJP au cours des élections qui ont eu lieu au printemps dernier, et qu'elle a toujours fait partie du programme politique du BJP.
Le BJP, le parti nationaliste au pouvoir en Inde.
Oui, voilà. Ouais.
Alors,
le parti dont est issu Narendra Modi.
Et s'il ne veut pas de musulmans chez lui, pourquoi ne cède-t-il pas le Cachemire au Pakistan ?
Ah bah parce que le Cachemire est un état stratégique. Comme le disent beaucoup d'analystes, on a l'impression que c'est plutôt une réalité, mais que le gouvernement est plus attaché à un territoire qu'à une population. Or, c'est également un territoire stratégique. Je rappelle qu'il est traversé par les eaux de l'Himalaya qui produisent de l'électricité pour tout le nord de l'Inde. Il y a également beaucoup de ressources primaires agricoles, des ressources touristiques, puisque c'est un des endroits, des états indiens les plus touristiques. Donc, il est hors de question de céder ce territoire aussi pour une question de fierté nationale. Donc, c'est hors de propos, oui.
Le Figaro, la semaine dernière, a publié un reportage qui date de 1948, juste avant que n'explose une des plus sanglantes des guerres qui ont atteint le Cachemire. Reportage dans lequel un reporter part au Cachemire rencontrer le premier du Cachemire, comme on disait à l'époque. Il le décrit comme un solide gaillard de 45 ans environ, avec un visage énergique, vêtu d'une longue redingote de ton noisette, de laquelle s'échappent des pantalons blancs noués à la cheville. Il est coiffé d'un bonnet d'astrakhan, et qui lui dit, ce prince du Cachemire, au journaliste: jusqu'ici, les deux religions ont vécu en bonne intelligence, les troubles actuels ont été voulus et créés artificiellement pour des fins politiques. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui, Charlotte Thomas?
Ah oui, tout à fait. Bah, c'est exactement ce qu'on retrouve ce qu'on appelle le communautarisme. C'est-à-dire que rentrer, entre guillemets, pour y aller vraiment à très grands traits, mais faire rentrer dans la tête des gens que, étant donné qu'ils sont musulmans, chrétiens ou hindous, ils ont forcément des intérêts politiques divergents, voire antagonistes et irréconciliables. Mais effectivement, jusqu'à c'est justement cette politisation des enjeux, il n'y avait pas, les Cachemiris, que ce soit d'ailleurs les Cachemiris ou les autres Indiens dans d'autres États, vivaient en bonne bonne intelligence. Je veux dire, il n'y a jamais de bonne intelligence totale, mais non, il n'y avait pas de trouble, en fait, mis en œuvre expressément au nom de la religion. Mais la religion est quelque chose qui est principalement est utilisé par le gouvernement, beaucoup plus que par les Cachemiris. Les Cachemiris, eux, qu'ils soient hindous, musulmans ou sikhs, parce qu'il y a aussi une très forte minorité de sikhs, donc les gens qui ont des turbans, se considèrent comme cachemiris avant de se dire musulmans, sikhs ou hindous, justement.
Alors la fin...
Ça, c'est vraiment une...
La fin de l'autonomie relative du Cachemire, annoncée par le Premier ministre indien, est-ce que, pour vous, Charlotte Thomas, c'est la fin d'une certaine Inde, la fin d'une Inde laïque?
Ah ben alors, on parle plus de sécularisme pour l'Inde, puisque la laïcité est vraiment très très proche, enfin très propre au cas français, mais effectivement, mais au-delà du Cachemire, il y a d'autres cas. Il y a un état qu'on appelle l'Assam, au nord-est, où là aussi a été mis en œuvre une politique de redéfinition de la citoyenneté, pour aller très très vite, qui exclut en fait des citoyens musulmans, et il y a également une mesure du gouvernement qui vise à donner en fait le statut de citoyen indien à tout hindou, y compris du Bangladesh ou des pays extérieurs. Donc là, on voit vraiment une mise en œuvre d'une citoyenneté ethnique basée sur la religion, en tout cas la religion au sens, enfin la religion hindoue, et l'expulsion, en tout cas la mise en sommeil et la mise au pas des minorités. Il y a également la minorité chrétienne, hein, qui est victime d'attaques par les brigades qu'on appelle les brigades de vigilantisme nationaliste hindou, donc victime d'attaques à Pâques, à Noël, à chaque fois qu'elle se rend visible dans l'espace public. Donc c'est la mise en œuvre d'une citoyenneté exclusive qui fait que votre religion vous délégitime ou pas pour accéder à une citoyenneté indienne.
Alors au-delà de ces guerres, dont celle de 48 qui a fait plusieurs milliers de morts jusqu'à ce que l'ONU installe une commission spéciale en janvier 49 et impose un cessez-le-feu, au-delà de ces guerres, est-ce que vous diriez que le Cachemire a longtemps été une fierté pour l'Inde séculaire, un symbole de pluralisme?
Oui, disons que dans la tête des pères fondateurs, comme Jawaharlal Nehru, donc le premier ministre indien, qui lui-même était d'origine cachemiri et hindou, hein, effectivement, l'inclusion de ce territoire à majorité musulmane était la mise en exergue, en fait, du caractère, comme vous le disiez, séculariste de l'Inde, au sens où la religion n'est justement pas un motif sur lequel on base la citoyenneté, la nationalité et l'accès aux droits politiques. Donc effectivement, oui.
Donc les nationalistes hindous sont en train, petit à petit, et le Cachemire est, comme vous le disiez, peut-être l'un des territoires avant d'autres concernés par cette grande entreprise, de remodeler l'Inde à leur image. À vous entendre.
Oui, tout à fait dans un silence relativement assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale, puisque Narendra Modi met également en exergue les risques de, entre guillemets, terroristes islamiques, terroristes djihadistes, etc. Tout ce qui fonctionne, enfin, pour le dire vite, mais qui fonctionne très bien, hélas, à notre époque. Donc, oui, c'est exactement ça, c'est remodeler, en fait, faire une Hindu Rashtra, donc un royaume hindou, où les citoyens non hindous ont des droits bien moindres, pour le dire avec mesure, que les citoyens de confession hindoue, effectivement. Et puis il y a également la manière, puisque cette décision a été prise de manière extrêmement autoritaire, puisqu'on a sans consultation avec les partis politiques locaux, y compris ceux qui avaient gouverné avec le BJP, et de façon aussi très centralisatrice.
Merci beaucoup, Charlotte Thomas. Je rappelle que vous êtes l'une des chercheuses et chercheurs du collectif Noria, coordinatrice du programme Asie du Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le nouveau rendez-vous quotidien d'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, retour sur l'année 1989, une année charnière de Tiananmen à la Stasi, avec vendredi une balade radiophonique en direct de Berlin. Que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur? Nous en chercherons les traces.
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Elles nous émeuvent, nous forment, nous interpellent. La compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les grands classiques ont leur place sur France Culture. C'est pourquoi en cette rentrée, la compagnie des auteurs devient la compagnie des œuvres. Nous y parlerons de tout, de littérature évidemment, mais également de cinéma, d'art plastique, de musique et pourquoi pas d'architecture. Tout cela avec le même principe, raconter un créateur en partant de la vie et en allant vers l'œuvre.
Cette semaine, Stanley Kubrick, la compagnie des œuvres, de lundi à vendredi à 15h. Et sur franceculture.fr.
très bon matin ou encore petit matin sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon.
Eh bien c'est l'heure de votre humeur du jour et ce matin je vous le demande, pourquoi courir un marathon ?
Mais oui, pourquoi courir un marathon quand on peut terminer un marathon sans l'avoir couru ou presque ? Alors dit comme ça, c'est un peu mystérieux, je m'explique. D'après The Economist, le marathon de Mexico a été couru l'an dernier par 28 000 coureurs. Bon, jusque-là, rien de vraiment étrange, mais sur ces 28 000 coureurs, 5 000 ont été disqualifiés. Un chiffre faramineux, hein. Pratiquement 20% des coureurs ayant couru le marathon de Mexico ont en réalité utilisé un raccourci pour franchir plus vite la ligne d'arrivée, peut-être emprunter une bicyclette, je sais pas moi, une trottinette électrique.
Tout
alors, entre nous, oui, mais ça se comprend, Julie, parce que il faudrait quand même prendre son temps avant de qualifier le comportement de ces tricheurs d'irrationnel. Mexico, vous savez, c'est haut, il y fait chaud, donc courir 42 km en plein cagnard à une altitude de 2250 mètres, merci bien. Évidemment, les organisateurs du marathon de Mexico ne le prennent pas de manière aussi stoïque. Ils tentent de lutter contre le mensonge organisé qui gangrène leurs manifestations. Ils ont essayé, par exemple, de munir chaque coureur d'une puce, laquelle enregistre le trajet exact suivi par chaque compétiteur. Oui, mais certains coureurs ont fait porter leur puce à un autre coureur plus rapide. La plupart des participants au marathon de Mexico estiment qu'ils ont payé 33 dollars pour courir, ce qui leur donne le droit à beaucoup de choses, y compris de ne pas courir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tricher ? Bon, il y a une réponse prosaïque. Finir dans de bonnes conditions le marathon de Mexico donne le droit de courir celui de Boston. Bon, mais pourquoi ? Pour tricher à Boston. C'est peut-être que maintenant, être un bon sportif dans l'esprit des gens, c'est être un bon tricheur. Vous savez, tout le monde triche, hein. Les romanciers n'écrivent pas leurs livres, certains journalistes bidonnent leurs reportages, il y a des chanteurs qui utilisent autotune. Pourquoi voudriez-vous que les coureurs courent ? Jadis, on disait dans le sport que l'important, c'était de participer. Oui, mais ça, c'est du participe passé. Maintenant, l'important, c'est de faire croire qu'on a participé.